Alexander. Belle suite de matinée. Eh bien, il y a Margot Reguin qui est là pour les infos. Bonjour Margot.
Bonjour. Trois fois non, deux fois oui, les urnes ont livré leur verdict hier. La grande majorité des votants a rejeté les initiatives pour une eau propre et pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. En revanche, elle a approuvé la loi Covid-19 et les nouvelles mesures de lutte contre le Parlement. Plus inattendue, elle a fini par refuser la loi sur le CO2, objet qui faisait l'objet d'une large alliance entre partis et milieux économiques. Inattendu, mais pas forcément surprenant au vu du contexte, à en croire le commentaire de notre correspondante à Berne, Hélène Yost.
Voilà plus d'un an que la Suisse est frappée par la crise, sanitaire d'abord, économique ensuite. Et cette situation inquiétante pourrait bien avoir pesé sur le scrutin, au point d'éclipser l'autre crise, celle du climat. Certes, les citoyennes et citoyens n'aiment pas trop ouvrir leur porte-monnaie, même pour de nobles idées. Ils ont à cœur de préserver leur pouvoir d'achat et l'économie, ce qui explique en partie l'échec des initiatives contre les produits phytosanitaires, soupçonnés de faire flamber les prix des aliments. Toutefois, cette loi sur le CO2 aurait pu connaître un autre destin. Nombre de politiciens et politiciennes y croyaient. Ils avaient retenu les leçons de la vague verte et des manifestations pour le climat, en ficelant un projet complexe, pragmatique, capable de rassembler aussi certains acteurs économiques. Mais la crise du Covid-19 est passée par là, et même si l'on ne sait pas vraiment combien de votantes et de votants ont réellement vu leurs revenus s'effriter, cette perspective suffit à elle seule à faire frémir, y compris les écologistes en herbe. Nos autorités auront beau revenir désormais avec d'autres plans plus ou moins ambitieux, elles devront se souvenir de ce scrutin et de cette composante essentielle pour faire passer des mesures en faveur de l'environnement, toutes ou presque est question de climat, politique et économique.
Et retour dans notre région, le Tour de la Vallée d'Illy a été inauguré samedi au couvert de Frachette à Champoussin par des membres de l'Association des Amis des Sentiers de la Vallée d'Illy. L'occasion également d'expliquer un projet en réflexion, celui des observatoires de la faune. Les détails de Gérald Berra, secrétaire et caissier de l'ASV.
Nous avons des observatoires qui sont prévus, hein. On en a un à Champéry notamment, un à Valdilier. Sur Trois-Torrents, on envisage, on a aussi un endroit qui irait bien aussi, mais on est encore en discussion avec eux. Et puis le but, eh ben, c'est d'apprendre aux familles à observer. C'est une chose importante d'observer la nature, observer le gibier. Et l'observation de ce gibier ne se fait pas à l'intérieur, mais se fait depuis le versant en face avec des jumelles. Et c'est pour ça que la SVI va équiper ces observatoires de jumelles.
Le tour de la vallée d'Illy part de Montet, grimpe jusqu'au col de Coux et redescend par l'autre versant en 5 étapes. Le fascicule Les détaillants est disponible auprès des offices du tourisme. La police cantonale valaisanne a retrouvé hier deux personnes mortes dans un appartement à Loches-les-Bains. Elle a été contactée par un tiers qui n'avait plus de nouvelles de ses connaissances depuis un certain temps. L'identification formelle des deux victimes est en cours. Le ministère public a ouvert une instruction. Et ce week-end, des passionnés de Citizens Band, la bande Megahertz libre pour tout un chacun et de radio amateur, se sont retrouvés à Corberier. L'occasion de tester le matériel, d'échanger, de tenter d'établir des liaisons radio grâce à l'installation de deux antennes de plusieurs mètres de haut. Et lorsque ces férus des communications avec l'autre bout de la planète installent leur équipement dans leur jardin, ils suscitent parfois des interrogations. Marc Battaglia, l'un des trois organisateurs du rassemblement, le confirme.
Il y a effectivement toujours des questions qui sont soulevées quand on monte. Surtout que certaines antennes peuvent être assez volumineuses, donc ça interpelle. Donc effectivement, ça soulève quelques questions. Après, voilà, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que ces fréquences et ces bandes de fréquences sont utilisées. On sait pertinemment qu'elles sont sans risque. Donc souvent, on dédramatise et puis ça passe toujours assez facilement. Voilà. Il y a des fois un peu de confusion parce qu'il y a effectivement des débats autour des ondes, etc. C'est pas du tout les mêmes types de fréquences et on est sur complètement autre chose. Il n'y a pas de peur à avoir vis-à-vis de ces antennes-là.
Si pour s'essayer à la CIBI, il ne faut qu'un micro et une antenne, dans le cas de la radio amateur, il est nécessaire d'obtenir une licence auprès de la Confédération, un sujet de Valérie Blom. Implenia et Webuild Group ont remporté un appel d'offres de plus d'un milliard d'euros en Italie. Le groupe a pour mission de construire un nouveau tronçon ferroviaire dans le nord du pays. La nouvelle ligne de 22,5 km liant Forteza à Montegardena partira du tunnel de base du Brenner et doit permettre de réduire le temps de trajet des trains de passagers et de marchandises entre Munich et Vérone. Une nouvelle page de l'histoire d'Israël s'est tournée hier. Après 12 ans de règne ininterrompu du premier ministre Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett accède au pouvoir. Il a réussi à rallier des députés allant de la droite à la gauche en passant par l'appui d'un parti arabe pour créer ce nouveau gouvernement. L'ancien allié de Benjamin Netanyahou a rapidement reçu les félicitations des États-Unis, de l'UE, de l'Allemagne et du Canada. En Algérie, le principal parti de la mouvance islamiste en lice pour les élections législatives revendique la majorité. Une affirmation réfutée par l'autorité nationale indépendante des élections. Son président a rappelé qu'en raison du dépouillement jugé compliqué, les résultats officiels pourraient ne pas être annoncés avant plusieurs jours. Ces législatives ont été marquées par un très fort taux d'abstention après le boycott du scrutin par le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition. En sport et en voile d'or, en voile plus précisément, le bol d'or Mirabeau a encore une fois vécu des heures mémorables. Par une journée très ensoleillée, le vent est toutefois venu à manquer. Les bateaux ont dû patienter près de 8 heures avant de passer la bouée du Bouvray. Et ce n'est qu'en fin de soirée que la course s'est décantée. La bise s'est enfin levée, les bateaux les plus performants par fort vent ont enfin pu accélérer. Ils ont parcouru les derniers kilomètres à une vitesse de plus de 45 km/h. Et c'est Liam, l'embarcation de Bertrand Desmolles, qui l'a emporté en 12h49. Un vainqueur qui a ressenti beaucoup d'émotions hier soir, il l'a dit au micro de nos confrères de Radio Lac.
Oui, surtout après être passé à l'eau dans le port. C'était un magnifique bol d'or, c'était vraiment extraordinaire. Je veux dire qu'Arouane a fait un super boulot de tactique. Tout le monde a fait un job parfait. On était tout le temps dans le coup et l'arrivée était spectaculaire. C'était de nuit à 26 nœuds en feuillant, c'était incroyable. Il y a eu beaucoup de relances, c'était un bol qui était très long, c'était très tactique, il y a eu souvent des nouveaux départs. C'était assez incroyable parce qu'il y avait une ligne au large de Méry, il y avait une ligne avec tous les bateaux au retour. Il y a eu, je sais pas, 3-4 départs et à la fin on a réussi à s'échapper.
Près de 450 voiliers ont pris part à ce 82e bol d'or. Et puis en course à pied, Moon Mathis a parfaitement lancé sa saison hier lors de la première course des Golden World Trail Series sur le tracé d'Ola de Noura en Catalogne. L'athlète d'Olon s'est imposé devant sa compatriote bernoise Judith Vider. Avec un temps de 2h, 21 secondes et 52 dixièmes, la Chablaisienne a pulvérisé de 15 minutes le record détenu depuis 2011 par l'Espagnol Mireia Ramiro. Avec cette première victoire, la Vaudoise fait le plein de confiance avant de prendre à la prochaine étape de ces Golden World Trail Series qui se tiendra en France à l'occasion du marathon du Mont-Blanc le 4 juillet prochain. Et chez les hommes, c'est le Norvégien Stian Angermund qui s'est imposé devant le Fribourgeois Rémi Bonnet et l'Italien Davide Magnani.